France Inter, il est 7h30. Et c'est le journal de Sébastien Legenie. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, améliorer le maigre salaire des infirmières françaises. Ce sera aujourd'hui le cœur des revendications des personnels hospitaliers. Nouvelle manifestation cet après-midi à Paris. Reportage à suivre. Un match sans incident, mais sans qualification non plus. Le France-Turquie d'hier soir n'a pas connu de graves débordements. Récit d'une rencontre très géopolitique par le service des sports. À suivre également, montée de fièvre en Catalogne, 75 blessés après les peines de prison prononcées hier contre des leaders indépendantistes. Le soulagement des producteurs de lait de Normandie qui ont pu reprendre la collecte hier soir, plus de deux semaines après l'incendie de Lubrizol. Et puis pour terminer, des tours de banlieue élevées au rang d'œuvres artistiques. Ça s'appelle Trésor de banlieue, une exposition rare à découvrir en fin de journal.
Et au micro de Léa Salamé, dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui Laurence Rossignol, ancienne ministre des Familles, de l'Enfance et des droits de la femme.
France Inter.
C'est l'un des moteurs de la contestation à l'hôpital depuis des mois, Sébastien. Les salaires parmi les plus bas des pays développés.
Notamment les salaires des personnels paramédicaux, aides-soignants, agents administratifs ou encore infirmiers. Selon une enquête de 2017, les infirmiers français sont en effet les plus mal lotis avec une rémunération inférieure de 5% au salaire moyen. 26e rang sur 29 parmi les pays de l'OCDE, loin derrière l'Allemagne, l'Espagne ou même le Mexique. Une rémunération qui pose problème, reconnaît d'ailleurs elle-même la ministre de la Santé. Alors c'est pour réclamer une rémunération plus digne que les personnels des hôpitaux seront donc à nouveau dans la rue aujourd'hui, Véronique Julia.
Les salaires des personnels hospitaliers ont été gelés.
C'était jeudi dernier à l'Assemblée Générale du collectif Interhôpitaux à Paris. À la tribune, une jeune infirmière prend le micro. Elle se met à pleurer en expliquant que faute d'un salaire suffisant, elle ne sait pas comment se loger et vit dans une chambre de garde. Elle raconte qu'elle n'est pas la seule. Une assistante sociale ajoute qu'avec 1400 euros de salaire, la vie n'est pas simple à Paris et que 300 euros de plus, ce que réclame justement le collectif Interhôpitaux, ne serait vraiment pas trop. Dans la salle, les médecins et chefs de service des hôpitaux parisiens applaudissent. Eux-mêmes ne sont pas à plaindre, disent-ils, mais dans leur service, ils en font le constat. Le salaire des personnels est devenu intenable. Stéphane Daugé est chef du service de réanimation pédiatrique à l'hôpital Robert Debré à Paris.
Je pense qu'effectivement, on est dans une situation où le salaire des débutants dans les fonctions d'auxiliaire, de puériculture ou d'aide-soignante, d'infirmière, les personnels administratifs ont des salaires absolument ridicules par rapport à la charge qui a augmenté fortement depuis une dizaine d'années. Alors, il y a une particularité de l'Île-de-France, c'est le coût de la vie en Île-de-France. En Île-de-France, vous le savez bien, tous ces salaires, ils habitent à 1h30 de leur lieu de travail.
Ça ajoute à la fatigue.
À la fatigue, au stress et à la manque de reconnaissance, très clairement.
Dans les hôpitaux parisiens, 900 lits sont actuellement fermés, faute de personnel suffisant. La direction de la PHP évoque des difficultés de recrutement chez les infirmières en particulier. Difficultés qu'elle attribue en grande partie, justement, à la question de la rémunération.
Véronique Julia, spécialiste santé à Inter. Les personnels hospitaliers ne seront pas les seuls à manifester cet après-midi. Pompiers, collectifs interurgences et collectifs interhôpitaux seront également présents place de la République.
7h33, on craignait une rencontre explosive. Le France-Turquie d'hier soir s'est finalement déroulé sans incident. Sébastien, mais pas sans tension.
Bonjour Cédric Guillou.
Bonjour.
Service des sports de Radio France. Une ambiance sportive donc hier soir, mais pas conflictuelle pour autant. Hein.
Oui, il y avait d'énormes craintes, notamment Sébastien, autour de la Marseillaise hein, qui avait été sifflée. On s'en souvient, c'était au match aller à Konya en Turquie début juin. Il y avait près de 40 000 Turcs hier soir au Stade de France. Eh bien, les supporters ont chanté et absolument pas sifflé cette Marseillaise. On a même vu certains Turcs applaudir l'hymne français lorsqu'il s'est terminé. Seul incident à noter en tribune, c'est le déploiement d'une banderole pro-kurde à la 86e minute de jeu qui a suscité des sifflets, un début d'altercation. Mais la banderole a été rapidement retirée par les stadiers. Et c'est finalement sur le terrain que la situation en Syrie s'est invitée. À deux reprises, quand les joueurs turcs ont effectué un salut militaire en hommage à leur armée, sur le but égalisateur à la 82e minute et puis à la fin du match. Mais le plus étonnant, Sébastien, c'est que les téléspectateurs ne l'ont pas vu, cette image, la réalisation française. C'était M6 hier soir, s'est attardé de longues minutes sur le but, a montré le ralenti de multiples fois et a repris le direct quand les Français étaient prêts à engager. Beaucoup de supporters turcs, en revanche, ont immortalisé l'instant. L'image est rapidement remontée en Turquie, a été relayée sur les réseaux sociaux par plusieurs ministres, d'ailleurs, du président turc Erdogan. On rappelle, hein, 7 joueurs qui ont la main droite tendue et posée sur le front. Ça a aussi provoqué la colère d'un commentateur de la télévision d'État turc qui a déclaré « Mais pourquoi ne montre-t-il pas le salut militaire ? Pourquoi ? C'est magnifique, pourquoi ne le montre-t-il pas ?» Mais bon, qu'est-ce que ça change ? On rentre de France avec la première place.
Cédric Guillou, merci. On n'oublie pas pour autant le résultat sportif. Match nul en effet un partout. La France va devoir attendre son prochain match contre la Moldavie pour se qualifier pour l'Euro 2020. Ajoutons également sur le plan plus diplomatique le changement de discours hier soir des Américains. Après avoir laissé le champ libre à la Turquie, Donald Trump a soudainement haussé le ton hier contre Ankara avec une série de sanctions ciblées contre 3 ministres turcs et la hausse des droits de loi, des droits de douane sur l'acier. Une macabre découverte hier sur les plages du Pas-de-Calais, 2 jeunes migrants, 2 Irakiens de 17 et 22 ans retrouvés morts sur une plage du Touquet. Depuis un an, ces tentatives de traversée de la Manche se sont multipliées. Près de 1500 migrants ont tenté de rejoindre les côtes anglaises. Et puis au Japon, le bilan du typhon Agibis encore revu à la hausse avec aujourd'hui 67 morts, 15 personnes sont toujours portées disparues. Direction la Catalogne, secouée par de nouvelles tensions hier soir après la condamnation de plusieurs dirigeants indépendantistes à des peines de prison. Des milliers de personnes se sont rassemblées notamment pour bloquer l'aéroport de Barcelone, obligeant la police anti-émeute à intervenir. 75 personnes ont été blessées, plus d'une centaine de vols annulés. À Gérone aussi, des manifestations très importantes. 25 000 personnes dans les rues de la ville de l'indépendantiste Carles Puigdemont. Reportage Sébastien Berriot.
Malgré la pluie, c'est une foule immense qui s'est rassemblée hier soir à 20h sur la place du 1er octobre, rebaptisée après le référendum de 2017. Henrik, la soixantaine, est venu de son village à 30 km de Gérone. Il a été très choqué par le jugement du tribunal suprême.
Pour moi, on est tous à la prison. On n'accepte pas du tout ça. On va continuer à lutter jusqu'au bout. Jordi Cuixart, c'est un exemple de lutte dans le même point qu'ils ont fait à l'India, Gandhi ou Martin Luther King. Parce que ce n'est pas une question uniquement d'indépendance, c'est une question très claire de liberté.
Parmi les manifestants, de nombreux amis et collègues de Dolores Bassa, l'ex-ministre du Travail du gouvernement catalan, originaire de la région de Gérone. Elle a été condamnée à 12 ans de prison. Certains ont du mal à contenir leur émotion. Comme Théa.
J'ai pleuré beaucoup et je vais pleurer maintenant parce que c'est très difficile.
Pili, elle, n'a pas été surprise par les lourdes peines.
Oh, je l'attendais déjà. Ça fait très longtemps qu'on connaît l'Espagne. Je n'attendais rien de plus. On n'est pas dans un état de droit.
Les 25 000 manifestants se dispersent dans le calme. Seules quelques insultes pleuvent au passage d'une dizaine de fourgons de la police nationale espagnole.
On revient en France avec le soulagement pour les producteurs de lait de Normandie. Les mesures de restriction sur la commercialisation du lait prises après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen ont été levées hier. Les analyses de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ne montre pas, je cite, de dépassement des teneurs maximales réglementaires. Interdiction maintenue en revanche pour les œufs, le miel et les fruits et légumes. Le commando de Notre-Dame lourdement condamné. Il aura fallu 10 heures de délibérer. Les 4 femmes jugées pour avoir tenté de faire exploser les bonbonnes de gaz à proximité de la cathédrale ont écopé de peines très sévères. 30 ans pour Inès Madani, 25 ans pour Ornella Gilligman.
Il est 7h38, un bracelet, Sébastien, pour protéger les femmes victimes de violence conjugale.
Le bar va entrer dans la loi aujourd'hui. Bar pour bracelet anti-rapprochement. Un nouveau dispositif qui permet d'éloigner les maris violents. Cette proposition de loi déposée par le député LR Aurélien Pradi a été adoptée la semaine dernière à l'unanimité. Elle devrait être de même votée solennellement aujourd'hui. Comment fonctionne ce bracelet anti-rapprochement ? Élément de réponse avec Jean-Philippe Degnaud.
Le principe est simple, le conjoint violent porte un bracelet émetteur, le magistrat définit un périmètre à l'intérieur duquel il ne peut pas pénétrer. S'il le fait, un signal le prévient en même temps qu'une alarme se déclenche sur le boîtier du conjoint victime. S'il ne sort pas immédiatement du secteur interdit, alors c'est le poste de police ou de gendarmerie auquel il est relié qui est alerté et qui intervient tant pour intercepter le contrevenant que pour protéger la victime. Une telle mesure d'éloignement pourra être décidée dans une procédure pénale directement par un magistrat. magistrat. Elle pourra ainsi constituer une mesure alternative à la détention. Mais dans une procédure civile, le bracelet anti-rapprochement ne pourra être proposé par un juge des affaires familiales que s'il obtient l'accord des deux conjoints. Si les députés adoptent l'inscription de ce dispositif dans la loi tout à l'heure, il faudra encore attendre plusieurs mois avant la mise en circulation des premiers bracelets, le temps d'obtenir l'adoption définitive du texte, de lancer des appels d'offres et de débloquer le budget nécessaire. La facture est estimée entre 5 et 6 millions d'euros pour la mise en circulation d'un millier de bracelets anti-rapprochement.
En attendant la mise en place de ce bracelet, 121e féminicide hier depuis le début de l'année, une femme de 73 ans retrouvée morte chez elle à Issoudun. On termine avec une exposition rare sur la banlieue et en banlieue. Ça s'appelle Trésor de banlieue, 260 œuvres d'art léguées par des artistes locaux et rassemblées à Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine. 53 communes, principalement d'Île-de-France, ont accepté de prêter leurs œuvres municipales, toutes réunies pour la première fois, Bastien Munch.
Des tours de banlieue représentées sur des peintures, des photos. Ryan, 15 ans, ne s'attendait pas à ça. Il vient de tomber sur une image du plasticien Georges Rousse, la photo d'une rue qu'il connaît depuis toujours à Gennevilliers.
Je ne l'ai pas reconnue au début, je ne m'attendais pas que ce soit elle, et j'étais choqué. On se voit à travers les airs parce que c'est chez nous en fait.
Ça rend vachement fier.
Nourdine, 14 ans, est lui venue avec toute sa classe de seconde devant les peintures sorties d'usine de René Roche et les délégués de Boris Taslitsky, des représentations de la banlieue qu'il ne voyait jamais dans les musées parisiens.
Dans les musées, ça ne représente que Paris. On voit les grands immeubles parisiens, on voit des peintures de la Tour Eiffel, on n'ose jamais vraiment montrer la banlieue. Ça fait du bien maintenant, on espère qu'elle sera encore plus exposée et pourquoi pas au musée du Louvre un jour.
Pourtant, les grandes galeries parisiennes accueillent beaucoup d'œuvres créées par des artistes en banlieue, à l'image des compressions de César à Gennevilliers ou d'Ernest Pignon-Ernest qui travaille à Ivry. Manuel Alvarez est le coordinateur de l'exposition Trésors de banlieue.
Elles sont créées en banlieue, elles sont ensuite avalées et digérées par Paris. Et c'est seulement à ce moment-là que on en prend connaissance. Mais ils existent avant. Mais effectivement, en banlieue, on a moins de lieux d'exposition.
Cette exposition unique en son genre est donc prise d'assaut par des groupes scolaires de toutes les communes partenaires, avec souvent, selon Manuel Alvarez, des enfants qui reviennent pour montrer les trésors de banlieue à leurs parents.
L'exposition Trésors de banlieue, ça se tient dans les Halles des Grésillons à Gennevilliers.
Merci Sébastien Legénie.